En tout cas, on est très heureux d'être avec vous pour ce week-end. C'est formidable de retrouver autant de visages connus, bienveillants à notre égard. On était très touchés de l'accueil que vous nous avez fait, à nous, à nos enfants. On se sent bien avec vous, on se sent bien ici, et on est vraiment heureux de partager ces moments avec vous. J'espère que, comme Robert nous y a encouragés, le Seigneur va nous bénir pendant ce week-end. Nous aussi, on s'attend à sa bénédiction, peut-être d'une manière différente, mais c'est vous qui allez justement apporter cette pierre à l'édifice pour notre vie, notre cheminement, et vous le faites déjà avec ce qu'on a déjà pu partager pendant ces quelques heures passées avec vous. Alors, je vérifie que ma technique fonctionne, voilà. Le thème de ce week-end, c'est ça. Voilà, ça va venir. C'est pas ça, non, là, c'est juste le petit trait jaune pour dire que ça marche. On a donc retenu la question des priorités. Hein. Il y a un beau tableau là qui a été fait. Je ne sais pas qui a fait ce magnifique Emmanuel Roqueton. Voilà. Alors vraiment, on est béni aussi d'illustrer ça. J'espère que je serai à la hauteur de ces attentes-là. Mais mieux gérer nos priorités, c'est le thème qui va animer, qui va guider nos propos. Et nous allons le faire à partir du livre d'Agée. Alors ça commence mal. Anachronisme, voilà. C'est bon. Une sage gestion des priorités. C'est le thème de ce matin. Ça en a passé deux. Ha ! Tout mon effet est perdu. Bon, c'est pas grave. Pour introduire le propos de ce matin, j'aimerais vous raconter une petite illustration, une petite histoire, sans doute bien connue, mais je trouve qu'elle est vraiment en lien avec ce que nous allons dire, donc si je vous la répète, ce n'est pas grave. On raconte cette histoire d'un séminaire organisé pour des cadres d'entreprise pour leur apprendre à bien gérer leur temps. Et on invite à ce séminaire un vieux monsieur à qui l'on donne un quart d'heure, un peu raide hein, quand même, pour pouvoir animer la question de la gestion de l'emploi du temps. Et on imagine hein, à ce séminaire tous les cadres de l'entreprise avec leur magnétophone, leur ordinateur portable, leur iPad prêt à saisir l'instantané de ce qui va leur être donné. Mais le vieil homme n'est pas vraiment de cette génération-là. Et il s'installe à une table et il sort lentement un vieux bocal. Et il sort un gros sac avec des gros cailloux, et il commence à mettre tout doucement ces gros cailloux dans ce bocal. Et il remplit donc son bocal avec ses gros cailloux jusqu'à ne plus pouvoir en mettre et se tourne vers ses chers cadres dynamiques et leur pose cette question: est-ce que mon bocal est plein ? L'assemblée répond à l'évidence: oui, le bocal est plein. En êtes-vous sûr ? Leur demande-t-il. Et là, il sort un autre sac, cette fois-ci rempli de gravier, et il remplit son bocal avec ses graviers, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en tenir. Il se tourne à nouveau vers l'assemblée et leur demande « Est-ce que mon bocal est plein ?» Bon, sentant venir le coup, cette fois-ci, l'assemblée ne se laisse pas duper. « A priori, non !»« En effet, vous avez raison, » répond le vieil homme, un brin malicieux, et cette fois-ci, il sort un sac de sable fin et remplit son bocal à nouveau. Est-ce que le bocal est plein cette fois-ci ? Dubitatif, les cadres répondent « Ah, non, en effet. » Et le vieil homme prend une carafe d'eau sur la table et continue de remplir son bocal. Arrivé là, il se tourne vers l'assemblée et leur pose cette question « À votre avis, qu'est-ce qu'a démontré cette expérience ?» Quelqu'un dans l'assemblée, faisant le lien avec le thème de l'emploi du temps, s'essaye à une réponse. Quand on veut, on peut. Il y a toujours de la place pour rajouter des choses à notre emploi du temps. Pas tout à fait, dit le vieil homme. Une autre réponse. Les cadres sont sans réponse, sans voix face à cette expérience. Le vieil homme poursuit alors. Voici la leçon. Si vous ne mettez pas les gros cailloux en premier, il n'y aura plus de place pour eux, à la fin. Et le vieux professeur de conclure, quels sont vos gros cailloux à vous. Les choses vraiment importantes pour vous. Ne permettez pas que d'autres choses prennent la place avant dans le bocal. Et cette histoire, cette petite illustration pour toucher notre imagination est le point que j'aimerais voir avec vous ce matin à travers le texte du livre d'Agée. Sans une sage gestion de nos priorités, fatalement, ce qui est secondaire triomphe. Sans une sage gestion de nos priorités, fatalement, ce qui est secondaire triomphe. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Agée. Nous allons lire alors ce petit prophète, peut-être pas très connu, c'est l'occasion de découvrir les trésors de la parole de Dieu. C'est dans l'avant-avant-dernier livre, avant le Nouveau Testament. Voilà, si vous avez du mal à le trouver. Livre d'Agée, chapitre 1, et nous allons lire les versets 1 à 11. Agée, chapitre 1, les versets 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit : le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous voici, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées ? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Quelques mots peut-être pour bien comprendre dans quel contexte nous sommes. Vous avez compris qu'il est question de reconstruire la maison de Dieu. Vous avez compris qu'il est question de malédiction, de temps pas favorable. Et je vais essayer de redonner un petit peu du contexte à ce que ce texte nous parle. Un temple en ruine. Il faut bien nous imaginer la scène. On est en 520 avant Jésus-Christ et le temple est en ruine. Un peu moins d'un siècle auparavant, le peuple juif a été déporté à Babylone. Et c'est une page terrible de l'histoire d'Israël qui s'est jouée là. Le roi Nebuchadnezzar est venu, il a fait le siège de Jérusalem à plusieurs reprises. Et les temps ont été particulièrement difficiles. On parle de parents qui mangent leurs enfants tellement la famine était terrible. Des choses qui nous semblent vraiment d'une monstruosité incroyable aujourd'hui. Le peuple de Dieu déporté. Cela pose aussi la question de l'abandon de Dieu pour son peuple. Est-ce que Dieu s'est détourné de son peuple ? C'est tout ça qui se joue dans cette période de l'histoire. Ça a duré à peu près 70 ans, jusqu'à ce que Cyrus, un roi païen, promulgue un édit pour prononcer le retour du peuple juif à Jérusalem. Et là, nous sommes en 538 avant Jésus-Christ. Un roi païen qui veut construire une maison à Dieu. Vous imaginez un peu le truc ? François Hollande qui se réveille un beau matin et qui dit « J'ai eu une vision cette nuit, je voudrais une église pour 10 000 habitants. Allez-y, les chrétiens, levez-vous, bâtissez. » Et c'est un peu ça qui s'est passé là. Hein ? Le roi Cyrus qui promulgue un édit. Et c'est des dizaines de milliers de Judéens qui ont fait le voyage retour de Babylone, là où ils avaient été exilés, jusqu'à Jérusalem. Seulement quelques dizaines de milliers, serais-je tenté de dire. Parce qu'en fait, de nombreux Judéens ont fait le choix de rester à Babylone. Qu'auriez-vous fait d'ailleurs à leur place ? Après 70 ans, deux générations, des vies reconstruites, des maisons bâties, des affaires professionnelles qui prospèrent, est-ce qu'à nouveau, on aurait été prêt à tout lâcher pour repartir à Jérusalem, où on ne sait pas trop ce qui aurait pu nous attendre, si ce n'est peut-être de découvrir qu'on avait été exproprié, que d'autres personnes s'étaient mis là à notre place. Un sacré risque, un sacré défi. Je crois d'ailleurs que sans une conviction profonde que c'était Dieu qui appelait le peuple à rentrer, il était difficile d'envisager ce voyage-retour. On n'a pas tous la foi d'un Abraham, n'est-ce pas ? Sans une sage gestion de nos priorités, fatalement, ce qui est secondaire triomphe. D'un autre côté, on ne sait pas trop quel était le sentiment qui animait ceux qui sont rentrés. Oh, moi, je m'imagine assez bien à leur place, hein ? Un petit sentiment de fierté, peut-être ? De supériorité ? Cette idée qu'un bon croyant ne va pas rester là, à Babylone, à écouter l'appel des sirènes de la société matérielle, à se laisser séduire. Un vrai membre du peuple de Dieu ne se laisse pas aller à de tels compromis, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs un peu parfois comme cela qu'on regarde les autres chrétiens, quand on pense qu'ils subissent finalement les mauvaises conséquences de leur choix dans leur vie. Est-ce qu'ils ont mis la bonne priorité dans leur vie ? Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement en train de payer les pots cassés des mauvais choix ? Pour bien gérer nos priorités, il suffit de faire les bons choix. C'est la parole facile qu'on pourrait avoir. Mais est-ce aussi simple que ça ? Il suffit de faire les bons choix. Je ne peux m'empêcher de remarquer avec vous ce matin, en lisant ce texte, que ceux qui sont rentrés à Jérusalem ont finalement été vite rattrapés par le même problème que ceux qui sont restés à Babylone. Préférer rebâtir leur propre situation plutôt que de faire de Dieu et la construction du temple leur priorité. En fait, il ne suffit pas d'avoir choisi le retour d'exil pour avoir les bonnes priorités dans sa vie. Les exilés rentrés au pays ont rebâti l'autel des sacrifices, a priori assez vite après leur retour. Ils ont même commencé à reconstruire le temple. Oui, mais voilà, ils se sont vite laissés décourager. Des peuples installés là à leur place ou dans le voisinage proche ont mis la pression. La situation économique n'était pas prospère et il était difficile de trouver des matériaux pour reconstruire. Et c'est ainsi que, assez vite, les travaux du temple se sont arrêtés. Sans une sage gestion de nos priorités, ce qui est secondaire triomphe. Et c'est ce qui s'est passé ici. Certainement, les Juifs sont revenus d'exil pleins d'espoir, pleins d'illusions. Avec l'édit de Cyrus, c'était comme si une page à nouveau se tournait. Le temps de l'épreuve était terminé. Le Seigneur allait bénir. Il allait restaurer son peuple aux yeux du monde entier. Entendez l'appel de Dieu. Montez avec nous. Venez reconstruire le temple de Dieu. Leur priorité était claire alors. Et dans un coin de leur tête, certainement cette attente que Dieu allait bénir et restaurer. Mais quelques années plus tard, ils ont vite déchanté. Rien ne s'est passé comme prévu. Le pays était en ruine et la reconstruction du temple bien plus compliquée qu'imaginée. Si Radio Jérusalem avait existé à l'époque et que vous aviez interviewé un judéen, certainement il aurait dit « Si je suis ici, c'est pour reconstruire une maison à Dieu ». Oui, mais voilà, il y a bien longtemps que dans son bocal, l'eau et le sable avaient été versés et qu'il n'y avait plus de place pour ce gros caillou-là. Et comme Robert nous a interpellés au moment de commencer ce week-end, j'aimerais aussi vous interpeller. Est-ce que les gros cailloux de vos vies ont bien été mis en place dans votre bocal? Est-ce que vos gros cailloux sont bien dans le bocal? Parce qu'on constate en lisant la parole de Dieu ce matin qu'un danger redoutable nous guette, un danger subtil, celui du grand écart. Moi, si je m'exerce à ça, le grand danger qui m'attend, c'est celui de me déchirer musculairement. Mais ce que je vais illustrer, c'est tout autre chose. Le grand écart de nos vies. Le décalage entre ce que nous affirmons être important dans nos intentions, dans nos conversations, dans nos prières le dimanche matin, et ce qu'il est réellement dans nos actions, dans notre emploi du temps. D'après une enquête de l'Express, qui date peut-être de quelques années maintenant, si vous interrogez les Français sur ce que signifie réussir leur vie, ils répondent à 95% privilégier la vie de famille. La priorité des Français, ce n'est pas atteindre une place en vue avec un bon salaire, ce n'est pas s'éclater dans la vie, c'est avoir une vie de famille heureuse. Bon, les deux ne sont pas contradictoires, hein, mais c'est ça leur priorité. Ça, c'est la déclaration d'intention. Mais qu'en est-il dans les faits? Un mariage sur deux finit par un divorce. Et j'imagine plus maintenant. Autant de familles recomposées, divisées, décomposées. Alors bien sûr, il y a les situations dramatiques, la violence, l'alcoolisme et autres qui peuvent conduire à cela. Pourtant, au-delà de ces cas extrêmes, j'ai l'impression qu'il y a avant tout un grand malentendu en la matière. Comment se fait-il que si la famille est la priorité absolue des Français, cela ne se traduit pas en premier dans leur choix de vie, dans leur emploi du temps, je veux dire. Beaucoup des couples que nous côtoyons en région parisienne, et je ne sais pas si c'est pareil partout dans la France, mais on dit parfois que Paris condense un peu hein, des choses un peu extrêmes, on est un peu plus loin de Paris maintenant, à une quarantaine de kilomètres, mais pourtant ce que j'observe avec attention, c'est des couples qui ne vivent pas en couple, mais qui cohabitent. Tout est organisé dans leur vie pour gérer la vie professionnelle, gérer les enfants, ils sont organisés, pas de soucis, l'un après l'autre va être à la maison, gérer les temps personnels, l'épanouissement, le sport, la musique, mais aucune place pour construire la vie de couple. Les couples se croisent, mais ne partagent plus ensemble. On a vu hier des belles photos hein, de couples mariés. Merci d'ailleurs aux organisateurs de nous avoir mis plutôt dans la catégorie des jeunes mariés encore. Même si on a senti qu'on n'était pas loin de la limite. Mais que ce soit après 6 mois de mariage, 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus, je crois qu'une des grandes leçons, c'est qu'un couple, ça se construit tout au long de la vie. Qu'il nous faut réserver du temps pour qu'un couple puisse continuer de grandir. Sans cela, nous devenons des étrangers l'un pour l'autre. Ça va se faire d'une manière différente, bien sûr, en fonction de l'âge, en fonction de la période de vie. Les couples avec des jeunes enfants ont beaucoup de gravier, de sable et d'eau qui viennent dans leur bocal. C'est pour ça qu'il est vraiment important de mettre les gros cailloux, parce que ça se remplit vite. Et si ces gros cailloux ne sont pas là, généralement, quand l'emploi du temps se dégage, plutôt que de prioriser le fait de passer du temps avec son conjoint, on profite d'avoir plus de temps pour aller à la salle de sport ou faire cette activité qui nous manquait tant quand on devait passer du temps avec les enfants, plutôt que justement mettre le gros caillou dans le bocal. Mettre le gros caillou dans le bocal, sinon, fatalement, ce qui est secondaire triomphe. Et pour nous, chrétiens, cette histoire de grand écart, je crois, est encore plus compliquée à gérer. Il est encore plus compliqué de gérer ce que nous disons être important et ce que nous faisons dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de veiller à ce que nos actions soient en cohérence avec ce que nous pensons être important. Il faut vérifier aussi que c'est cohérent avec ce que la parole de Dieu en dit. C'est quoi la priorité d'un chrétien selon la Bible ? Une façon simple de résumer pourrait être de reprendre la formule de Matthieu 6, 33. Faire du règne de Dieu et de sa justice notre priorité. Est-ce bien là le gros caillou qui est dans notre vase ce matin ? Si c'est le cas, eh bien, je crois que ça doit forcément avoir une place de choix dans mon agenda, dans la gestion de mes finances, dans la façon de prendre mes décisions, de vivre mes temps libres. Faites l'exercice quand vous en aurez l'occasion. Prenez votre agenda, prenez vos relevés de compte, regardez comment vous prenez vos décisions, comment vous utilisez votre temps et demandez-vous, est-ce bien la priorité du règne de Dieu qui conduit tout cela ? Nous avons besoin de nous éprouver nous-mêmes. Sans cela, fatalement, ce qui est secondaire triomphera. Alors ce constat du grand écart m'amène une question plus loin. Comment se fait-il que même si nous identifions les gros cailloux, même si la parole de Dieu nous amène à identifier les gros cailloux, notre tendance est de verser l'eau et le sable en premier ? Si vous vous posez ce genre de questions, je crois que AG a des choses à vous dire, à nous dire, tout comme il en avait aux Juifs revenus d'exil. Revenons à notre texte. Ces fêtes cultuelles à Jérusalem, fêtes de la nouvelle lune, le peuple est très certainement réuni juste devant le tas de ruines que j'ai montré tout à l'heure. Tas de ruines qui a commencé à être un peu agencé 17 ans auparavant. Et puis plus rien ne s'est passé. Agé se présente devant le peuple et il commence ce discours solennel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu. Peut-être d'ailleurs, en entendant mon propos sur les gros cailloux, vous êtes dit, oui, oui, les gros cailloux, je connais, mais si tu vivais un peu ma vie, tu saurais qu'en ce moment, c'est pas possible. Je dois d'abord régler cette situation. Je dois d'abord mettre en règle telle ou telle chose. Et quand tout ça sera en ordre, alors je m'y attellerai. Voilà l'excuse qui souvent vient polluer tout cela. Le temps n'est pas encore venu. Je ne peux pas faire de cela ma priorité. Il y a dans ce passage un avertissement. Les Juifs du temps d'Agé se sont réfugiés derrière de telles excuses, tout à fait valables. La situation économique était difficile. Les ennemis étaient décourageants. Il n'y avait pas beaucoup de ressources. Mais le véritable problème était ailleurs. Car 17 ans plus tard, ils n'étaient toujours pas revenus à leur première résolution. C'est toute l'ironie qui ressort des versets 3 et 4. où Dieu semble dire en quelque sorte, pour construire le temple, ça n'est pas le temps. Par contre, pour vous occuper du confort de vos maisons, là, il est bien temps. Comprenons bien, le problème n'est pas que les Judéens soient en train de construire leur maison et qu'ils ne construisent pas une maison à Dieu. On est conscient que Dieu n'habite pas une maison physiquement comme nous-mêmes. Le problème est ici un problème de motivation profonde. La prophétie ne dénonce pas le fait que les Judéens habitent des maisons. Elle dénonce le fait qu'ils habitent des maisons lambrissées, c'est-à-dire embellies avec du bois, symbole de richesse. La prophétie a pour but de démasquer les aspirations du cœur. À cause de l'opposition, à cause des déceptions, des illusions perdues, les Israélites revenus d'exil ont fini par se préoccuper plus de leur confort personnel que de rétablir le temple. Ils ont fini par se construire un temple à leur propre gloire plutôt qu'à la gloire de Dieu. La question des priorités ne touche pas donc uniquement au bon choix, à la bonne décision. Elle touche aussi à la question du cœur et ce qui nourrit notre cœur. Quitter Babylone, au regard de l'Écriture, c'était la bonne décision. Mais ça n'était pas pour autant une garantie de rester dans la volonté de Dieu. Parce qu'une véritable réforme de notre emploi du temps, de la gestion de notre budget, ne peut venir que par une réforme de notre cœur. On pourrait essayer de prendre, comme je l'ai proposé tout à l'heure, notre emploi du temps, nos comptes, et de donner des règles de ce qui devrait dire si justement nous sommes sur la bonne voie. Et la Bible en donne quelques-unes. On peut parler de dîmes, de notre argent, de notre temps. Et on en parle plutôt dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, comme s'il fallait comprendre qu'il fallait relire cela au regard de l'enseignement de Jésus. Parce qu'en fait, Dieu veut bien plus que la dîme. Il nous veut en entier. Pas dans le sens où je devrais tout donner à l'Église, aussi bien au niveau de mon argent ou au niveau de mon temps, mais dans le sens que tout ce que je fais au travail, à la maison, dans mes loisirs, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et le danger, eh bien, le danger, c'est de dire « le temps n'est pas venu ». Je donne à Dieu ce que je lui dois, d'un côté, et de l'autre, ça m'appartient. J'en fais ce que j'en veux. Le temps n'est pas venu. Cela peut s'exprimer par deux manières. Ce que j'ai appelé ici le piège de la parenthèse. Cette parenthèse, alors on la voit parfois dans la vie de jeunes personnes qui se disent « Pour l'instant, je vis ma vie comme j'en ai envie. Et pour les questions de Dieu, on verra ça plus tard, quand je serai plus âgé. » Et puis, il y a la parenthèse du chrétien qui n'arrive pas à se dépatouiller avec son emploi du temps. Un agenda qui peut être bien sûr bouleversé par l'arrivée d'un bébé, par la reprise d'une formation professionnelle, par des travaux dans leur maison, des choses qui arrivent. Ou alors un temps de vide émotionnel, un désert spirituel qui nous amène à des ajustements. Mais la vraie question, c'est justement de ne pas vivre cela comme une parenthèse, de s'agencer derrière des fausses excuses. Malgré les difficultés que nous pouvons vivre dans notre agenda, dans notre emploi du temps, dans notre morale et dans tout ce que la vie peut nous réserver, la priorité du royaume de Dieu peut être vécue. Parce qu'elle n'est pas d'abord dans ce que je fais, mais dans la manière dont je le fais. Le temps n'est pas encore venu à travers cette parenthèse de nos vies. C'est le premier piège que l'on peut voir dans la gestion de nos priorités. Et le deuxième piège, c'est celui que j'appellerais du cloisonnement. Pour le coup, ce n'est pas une période de ma vie que je mets entre parenthèses, c'est une partie de ma journée. celui qui a un travail, par exemple, peu épanouissant, qui le gonfle, comme on pourrait dire en termes un peu plus familiers, et qui se dit, voilà, ça c'est la partie de ma vie qui m'intéresse moins, mais la partie où je sers Dieu, eh bien, c'est quand le travail est fini, ma journée terminée, et que je peux me consacrer peut-être à un service plus direct. Là encore, c'est un piège qui nous guette. La vision que c'est plus tard que je peux servir Dieu est à bannir. Que ce soit dans une parenthèse de notre vie ou dans une parenthèse de notre journée. Pour mettre les gros cailloux du royaume de Dieu en premier dans ma vie, je dois me nourrir de cette pensée. Dieu veut m'utiliser ici et maintenant. Pas là-bas et plus tard, quand les choses iront mieux, quand la situation sera réglée, mais ici et maintenant, dans ce contexte. Je vais essayer de faire un petit résumé avant d'aller plus loin pour vous dire là où nous en sommes du propos. On a donc parlé de ces gros cailloux à mettre dans notre vase pour justement réussir à faire les bons choix dans notre vie. Et que ce n'était pas le contraire qui se produisait. Il me faut d'abord évaluer quels sont les gros cailloux de ma vie pour pouvoir faire les bons choix. Sans cela, ce qui est secondaire triomphe. On a parlé des dangers, des circonstances qui pourraient justement m'amener à faire un grand écart dans ma vie. Dire d'un côté que ça, c'est ce qui est important, le royaume de Dieu, mais qu'en fait, dans la réalité, ça ne se traduit pas du tout. Ces gros cailloux, on a dit que juste regarder les faits, notre agenda, notre compte en banque, nos pensées, la manière dont nous gérerons notre temps, c'était pas tout à fait suffisant. Il nous fallait travailler au cœur et nourrir notre cœur de cette pensée, faire du royaume de Dieu notre priorité. Et donc, arrivé ici, j'aimerais vous poser quelques questions, nous poser quelques questions pour justement savoir si nous nous nourrissons bien de cette pensée pour mettre nos gros cailloux en premier dans le bocal. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu ? Est-ce qu'il y a un temps clairement défini dans mon agenda pour lire la parole, la méditer, prier ? Quelqu'un a dit, que je me rappelle, ce n'est pas dans mes notes, quand je néglige de planifier, comment ça va cette phrase déjà ? Bon, c'est pas grave. En tout cas, négliger de planifier, c'est planifier ma négligence. Voilà, j'ai retrouvé. Négliger de planifier, c'est planifier ma négligence. On aurait tendance à ne pas vouloir planifier tout ce qui va de notre vie avec Dieu. Et pourtant, si c'est bien un gros caillou dans notre bocal, est-ce que ça ne devrait pas être la première chose qui apparaît dans mon agenda pour me nourrir justement de cette pensée du royaume de Dieu et de sa justice. Je ne sais pas pour vous, mais généralement, quand je ne commence pas ma journée par cela, eh bien, les graviers, le sable et l'eau viennent remplir mon bocal et je constate à la fin de la journée que je n'ai pas réussi à y mettre le gros caillou. La deuxième question, et elle est en lien aussi avec la réflexion que vous avez cette année, à l'église, dans les groupes de maison, dans les études bibliques, et j'ai bien précisé « relation ». Qu'en est-il de ma relation avec l'église ? Parce qu'on pourrait se dire, avec ce que j'ai dit des gros cailloux, qu'il suffirait justement de vérifier bien que les activités de l'église sont en bonne place dans mon agenda. Aller à l'église le dimanche matin, peut-être participer à l'une ou l'autre réunion de temps en temps, avoir trouvé un service dans lequel Dieu m'appelait, ce serait suffisant pour avoir mis ce gros caillou dans mon bocal. Et pourtant, je crois que la chose touche beaucoup plus au cœur qu'à l'activité. Est-ce que je comprends vraiment le rôle de l'Église dans ma vie. Comme un garde-fou qui m'empêche justement d'écouter uniquement les penchants de mon cœur. Est-ce que ce n'est pas pour ça que l'Église est parfois contrariante, décevante, parce que justement elle ne va pas dans le sens de ce que mon cœur ferait naturellement, et qu'il me faut justement nourrir une saine relation avec l'Église dans ma pensée, dans mes convictions, pour ne pas me laisser égarer et mettre les graviers en premier? Est-ce que je vois en l'Église un lieu où Dieu m'équipe pour être témoin et vivre le reste de ma vie à sa gloire? Ne pas faire du moment du travail un endroit où je ne fais que subir, en attendant le moment où je vais servir Dieu? Est-ce que j'aime l'Église? Est-ce que je vois l'Église comme Dieu la voit? Il est important que nous considérions si ces cailloux sont bel et bien dans notre bocal. Sans ça, nous ressemblerions à ces Israélites revenus d'exil. Ils ont certes bien commencé, mais quelques années plus tard, ils étaient plus préoccupés à embellir leur maison qu'à se préoccuper de la gloire de Dieu. Alors Dieu, dans tout ça, quelle est sa place, justement? Est-ce que Dieu est passif dans tout ce processus de gestion de nos priorités? La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu agit en notre faveur. Dieu ne reste pas impassible. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle un peu moins réjouissante, c'est la manière dont ça se passe. Et je vous invite à relire avec moi quelques-uns des versets 6 à 11. Je ne vais pas tout relire. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Plus loin, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Bizarre, vous allez me dire. Pas beaucoup de traces de l'action de Dieu en notre faveur dans ces quelques versets. Les conditions météo sont défavorables, les récoltes misérables, c'est l'indigence totale. Mais d'où est-ce que cela provient d'après ce texte? C'est Dieu qui est à l'origine de ça. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, dit l'Éternel, au verset 11. Puisque vous n'avez pas été fidèle à votre engagement, le malheur s'est abattu sur vous. Oula, qu'est-ce qui nous fait agir? Est-ce que ça veut dire que quand je n'obéis pas à Dieu, forcément la malédiction s'abat sur ma vie? C'est ça qu'il faut comprendre? Que les difficultés dans ma vie, ce serait la conséquence d'un péché en particulier? À l'époque d'Agé, on pourrait répondre oui, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre un tel texte? Il nous faut reprendre un petit peu le fil de la révélation divine. À l'époque de l'Ancien Testament, Israël était la nation de Dieu. Elle avait une alliance avec Dieu qui, en gros, disait « Si tu suis mes lois, eh bien, tu pourras le voir dans tout ce que tu entreprendras. Tu seras béni matériellement. » C'est Deutéronome 28 qui met l'accent sur ces bénédictions. Il y avait aussi le corollaire contraire. « Si tu n'obéis pas à ma voix, si tu ne mets pas en pratique mes commandements, alors tu feras une faible récolte. Les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin, car les vers la mangeront. » Dans l'Ancien Testament, on a bel et bien ce corollaire d'une conséquence entre la désobéissance à Dieu et ce qui se passe matériellement dans la vie du peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de nation qui peut affirmer être le peuple de Dieu. L'ancienne alliance a été accomplie et remplacée par une nouvelle. Et que dit cette nouvelle alliance? Elle stipule que quiconque croit en Jésus-Christ est justement pardonné de ses péchés, que quelque part il ne va pas en subir les conséquences qui devaient le conduire ultimement à la mort. La marque de cette nouvelle alliance, ce n'est plus obéissance égale bénédiction matérielle, désobéissance égale malédiction, c'est par la foi en Jésus-Christ, je suis pardonné de mes péchés. C'est la bénédiction spirituelle permanente, en quelque sorte. Et c'est très important, parce qu'on constate que souvent, autour de nous, les gens résistent à l'appel de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas cela. Pour eux, et souvent pour nous inconsciemment, si Dieu est bon, s'il est amour, il devrait résoudre nos problèmes. Problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes familiaux. Bon, vous avez remarqué que même dans l'Ancienne Alliance, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est pas si Dieu est bon, il devrait résoudre mes problèmes, c'est si j'obéis à Dieu, il résoudra mes problèmes. Mais ça, c'est pour l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui encore, Dieu peut faire cela. Il peut en effet agir d'une manière spectaculaire dans nos vies. Et peut-être il le fera si vous lui demandez, et si c'est cela dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas la clause principale de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne prouve pas son amour envers nous en arrangeant ce que nous identifions être nos problèmes. Il veut nous montrer quelque chose de bien plus essentiel. Le gros caillou par excellence, si je puis m'exprimer ainsi. Il prouve son amour envers nous en réglant notre problème fondamental, le péché. Et le livre d'Agée est à lire au filtre de l'Évangile. Autant d'Agée comme aujourd'hui, Dieu n'est pas passif. Il veut nous aider à mettre les gros cailloux dans notre bocal. Il est à l'œuvre. Il ne nous laisse pas nous débattre tout seul. Autant d'Agée comme aujourd'hui, il nous avertit quand nous nous éloignons de lui. Et c'est là où nos difficultés et nos épreuves rentrent en jeu. Nos difficultés et nos épreuves ne sont pas à voir systématiquement comme une punition pour notre péché, même si Dieu peut les utiliser parfois pour cela. Elles restent cependant un avertissement à considérer dans nos vies. Elles nous posent la question fondamentale. Est-ce que l'Évangile est bien le gros caillou de ma vie ? Le gros caillou dans mon bocal. Est-ce que l'Évangile a à ce point transformé ma façon de voir la vie que les difficultés, les circonstances, les épreuves ne sont plus une remise en cause de la bienveillance et de l'amour de Dieu à mon égard ? Est-ce que malgré les épreuves, le pardon de mes péchés est une nouvelle à ce point bonne que toutes les autres choses pâlissent à cette lumière. Ne soyons pas étonnés que notre bateau tangue si souvent, que nous soyons si près de chavirer, mais soyons assurés que Dieu œuvre à travers ces tempêtes et nous témoigne de son amour. Il l'a démontré ultimement à la croix. Et cette croix me rappelle ce matin l'urgence de faire de l'Évangile ce gros caillou dans mon bocal et de laisser Dieu construire dans ma vie ce temple à sa gloire. Si cette urgence est au centre de notre vie, nous saurons gérer nos priorités avec sagesse, ici et maintenant, dans notre contexte, et mettre de côté ce qui est secondaire. Amen.
Amen.
Je vous invite à un temps de silence et de considérer, comme nous le verrons à plusieurs reprises dans le livre d'Agée, cet appel, considérez vos voix, considérez ce que vous avez entendu ce matin, peut-être qu'à travers la lecture ou quelques commentaires, Dieu s'est adressé à votre cœur dans un domaine précis et ce qui serait bête, ce serait de repartir d'ici sans avoir considéré vos voix. Alors je vous invite à ce temps de méditation pour vous-même et je finirai ce temps par une courte prière.